dans les oreilles de un invité.
Je suis Mathieu Bogart.
Jane Birkin.
Romain Gavras.
Luigi Sakamoto.
Monster.
Dans les oreilles, une vie en musique.
Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ça, c'est une bonne question.
There are many, many songs. Pour moi, c'est difficile d'expliquer.
Nova.
À chacun sa BO.
D'abord, on m'a forcé à aller à l'opéra.
Ça m'a vraiment fasciné.
Le blues et le reggae.
C'était super bien.
Parce que la musique, c'est le plus profond langage humain.
Nova vous plonge dans les oreilles de
Dimitri from Paris.
Ouh là là, il faut dire qui je suis. C'est compliqué de dire qui on est. Je suis à la base quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Je suis arrivé à en faire mon métier, un peu par hasard. Quand j'étais adolescent, j'achetais des disques. Et j'ai pensé, ah bah tiens, DJ, c'est pas mal ça. Comme ça, je peux jouer les disques et puis en même temps, je peux gagner un peu de sous. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je suis? Je suis un peu musicien, je suis un peu DJ.
Et vous appelez comment?
Et je me prénomme Dimitri From Paris. Dimitri, c'est mon vrai prénom. Et From Paris, c'est là où j'habite depuis une cinquantaine d'années déjà.
Dans les oreilles de...
Et depuis trois décennies, Dimitri est devenu le meilleur ambassadeur du disco depuis Paris. Le maître dans l'art de l'édit et du remix a fait ses armes à la radio. Là, il contribuera à diffuser la house en France avant de sortir ses premières compositions sous forme d'esquisses, son bien nommé premier EP, suivi en 1996 de Sacre Bleu. Fraîcheur, Dizzy Listening, en pleine vague de French Touch. Les plus grands labels et artistes font appel à lui pour offrir une deuxième vie à leur catalogue, du duo Chic au mythique Salsoul Record. Alors, quelle musique ont accompagné les différentes étapes de sa vie? Réponse pendant une heure sur Nova. Et pour commencer, prolongeons cette présentation en musique. Quel titre, et c'est celui qui va ouvrir cette émission, vous traduirez le mieux et nous donnerez le « là » de ce que l'on va entendre dans vos oreilles, Dimitri?
C'est assez compliqué de trouver la musique qui résume tout, mais peut-être que celle qui a démarré mon véritable intérêt pour la musique, c'est la Lalochifrine. Et c'est le haut de l'iceberg de la Lalochifrine, puisque c'est le thème de Mission Impossible, que j'ai découvert en regardant la série à la télé quand j'avais, 13-14 ans. Cette musique avait un truc vraiment particulier. C'était un mélange de choses rythmées, d'accent populaire, et en même temps c'était extrêmement sophistiqué et il y avait plusieurs lectures, et au fil des années j'ai pu voir ces plusieurs lectures, mais j'ai été happé immédiatement par l'instantanéité du thème et je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de faire de la musique avec plusieurs lectures, avec une lecture simple pour ceux qui n'ont pas envie d'aller chercher trop loin, et puis derrière de placer des choses un petit peu plus sophistiquées. Donc j'aime toujours, et dans tous les arts en général, avoir la possibilité d'attirer les gens vers quelque chose sans les brusquer. Et en même temps, s'ils ont envie, ils peuvent aller plus loin.
We'll be right back.
vos oreilles.
Dans les oreilles.
Dans les oreilles de...
Dimitri from Paris.
More Mission sur Radio Nova, extrait de la bande originale de la série Mission Impossible, composée par le pianiste, chef d'orchestre et compositeur argentin Lalo Schifrin, qui, outre ses années au sein du label Verve, s'est fait connaître du monde entier avec ses fameuses compositions pour la télé et le cinéma. More Mission, qui sortira en 1969. C'est avec ce thème du maître que Dimitri from Paris a choisi de se présenter à nous. Le DJ et musicien revient sur les temps forts de sa vie en musique. Et si donc cette ère de Mission Impossible a allumé et tout aussi fondatrice, on la découvre dans un instant sur Nova. Nova.
Dans les oreilles de...
Dimitri from Paris.
John Barry Orchestra sur Radio Nova avec un extrait de la BO dont ne vit que deux fois, un James Bond sorti en 1967. C'était The Girl with the Sun in Her Hair. La musique de John Barry sur Radio Nova qui a donné carte blanche ce matin à Dimitri from Paris. Le DJ et producteur se raconte en musique.
Je vais vous parler du premier disque que j'ai acheté. Où c'est la première fois que activement j'ai choisi une musique que je voulais écouter. Et c'était un disque avec les thèmes des films de James Bond. C'était une espèce de compilation avec les thèmes des films de James Bond. Il y avait des musiques que je retenais dans les films de James Bond. Et là, pour le coup, c'est John Barry, un compositeur anglais. Et encore une fois, ce que je pouvais dire sur Mission Impossible s'appliquait aussi à John Barry. C'est-à-dire qu'il y avait un côté très accessible. En même temps, c'était très orchestré, assez détaillé, etc. Et j'aimais bien ce côté action dans la musique, c'était assez rythmé. Il y avait un beat, vraiment. Et par-dessus ce rythme assez soutenu, il y avait des choses très harmoniques, avec beaucoup de chants contre chants, avec des cordes, avec des orchestres symphoniques, avec des instruments qui répondaient les uns aux autres, etc. Donc c'était plutôt sophistiqué. Et je pense que ça a retenu mon attention. Je devais avoir une douzaine d'années à l'époque.
Et avant, vous n'écoutiez pas de musique ?
Non, je crois qu'avant 12-13 ans, je n'avais pas de choix musical particulier. Les premiers souvenirs que j'ai musicaux, c'était la musique de mes parents. Mes parents écoutaient beaucoup de classiques. C'était surtout Bach, donc c'était des choses très mélancoliques. Et c'était toujours triste. Ça me plaisait pas parce qu'il y avait un côté comme ça extrêmement, extrêmement triste dans cette musique. Et moi, j'avais envie de quelque chose de plus joyeux. Et d'ailleurs, c'est certainement par esprit de contradiction que ma musique est en général plutôt joyeuse. Je suis vraiment entré dans la musique par la musique de film ou de série télé, ce qui est un peu la même chose, via ces deux compositeurs clés pour moi qui sont John Barry et Lalo Schifrin. Alors après le premier disque que j'ai acheté, qui était une compile de musique de film, je suis passé par une petite période où il y avait la pop du moment, donc il y avait un peu tout. J'ai commencé à m'intéresser à des émissions de radio qui étaient des espèces de hits des clubs, comme on appelait ça à l'époque, qui proposaient la musique qui passait dans les boîtes de nuit de l'époque. On parle de ça début des années 80. Et ça me plaisait pas mal, ce truc très rythmé comme ça. Et avant ça, il y avait comme radio qui était assez dans la mouvance de ce qui, moi, m'intéressait, il y avait Radio 7.
C'était Funky Town, en tout cas.
Et de Lips, hein, tout simplement.
Et Radio 7, c'était assez fascinant parce que c'était un peu le même principe que ce qu'est Radio Nova aujourd'hui, c'est-à-dire que ça ne parlait que des musiques nouvelles et alternatives par rapport au hit-parade, pas dans le sens alternatif général. Et c'était un puits de nouveautés et de choses que moi, gamin, ado, j'entendais absolument nulle part ailleurs.
Radio 7 à notre chrono, il est exactement minuit et 2 minutes.
Donc c'était quoi? Ça devait être c'était à la fois le punk français, le disco.
Alors c'était très nouvelle musique électronique, un peu punk funk. Il y avait un côté comme ça. Franchement, c'était très similaire. C'était très sono mondial, quoi. Donc il y avait ce concept de voilà, il y avait des gens qui voyageaient, qui allaient à New York, qui ramenaient des disques, qui allaient à Londres, qui ramenaient des disques et qui les passaient. Et puis il y avait des DJ. Ça s'appelait même pas des DJ, mais il y avait des présentateurs qui avaient l'air de faire leur propre choix. Et qui présentait des trucs. Moi, j'ai découvert tout ce qui était un peu prémisse du rap américain. Il y avait beaucoup de funk, il y avait beaucoup de musique club. Il y avait vraiment un peu de tout. Et c'était pas vraiment axé pop. C'était toujours un peu à côté.
Et là, ça vous êtes ado quand vous écoutez Radio 7?
Oui, je dois avoir 17-18 ans quand j'écoute Radio 7.
Est-ce que vous êtes allé à des concerts ou pas du tout? Ou pas spécialement?
J'ai été à quelques concerts et j'ai toujours été déçu parce que moi, j'ai toujours aimé la musique assez produite et léchée. Et dans les concerts, c'était toujours moins bien que le disque. J'ai toujours trouvé que le concert était moins bien que le disque. J'étais pas particulièrement... Alors peut-être je suis mal tombé, mais j'ai pas été emporté par l'énergie des gens que j'ai vus en concert. Et je trouvais systématiquement que c'était moins bien que le disque.
Nova, dans les oreilles de...
Dimitri from Paris.
Alors, un endroit où on écoute le disque et on est réunis, c'est les discothèques. Quelles sont vos premières expériences, justement, dans les clubs?
Alors, les clubs, c'est pas exactement pareil qu'un concert, parce qu'il y a une grande piste de danse, parce que c'est assez difficile d'y aller et d'écouter la musique, parce que on se sent pas à sa place. Pourtant, c'est un peu ce que je faisais, c'est-à-dire que j'étais adossé à un mur et j'écoutais la musique. Effectivement, j'écoutais les disques qui passaient. Une des premières boîtes de nuit où je me souviens avoir été, c'était la salle Wagram. Oui, on y allait assez souvent. C'était là tous les week-ends. Donc, moi, j'écoutais avec pas mal d'attention ce que jouaient les DJ de l'époque. Je n'avais pas encore capté que les DJ faisaient quelque chose de spécial. Pas sûr, d'ailleurs, qu'ils faisaient quelque chose de spécial, parce que tout ce côté technique d'enchaîner les disques, de faire du passe-passe, de manipuler la musique... je ne l'avais pas encore remarqué. Et je sais que c'est venu un peu plus tard en Europe, avec justement l'influence des premiers DJ de scratch, mais qui étaient en fait les DJ qui jouaient la musique pour les MC, pour les premiers rappeurs.
Change du beat.
J'ai découvert ça lors de ce qu'on peut appeler un concert, mais c'était plus un événement, c'était une série de concerts qui s'appelait Paris City Rap.
Change de beat. Change de beat. Change de beat. C'est Louis Favaretti, détective privé. Toutes les femmes qui le suivent, elles lui courent après. Il est cool dans l'eau, tout le monde le connaît. Il passe tous les murs de New York City.
Et là encore, c'est un gros monument historique. Je crois que dans l'histoire musicale de beaucoup de personnes, parce que pour la première fois, on a vu sur une même scène des MC, des DJ, des graffeurs, des danseurs, et on n'avait aucune idée de quoi que ce soit que ces choses pouvaient être, que ces différents intervenants pouvaient être, parce que c'était quoi un danseur, et alors qu'est-ce qu'il vient faire là, un graffeur c'est quoi un graffeur, et un DJ, bah oui les DJ on les connaît, ils jouent dans les boîtes de nuit, et un rappeur, ah oui ça c'est nouveau, parce qu'il rappe dans le micro et il rime dans le micro.
Il passe tous les murs de New York City. Il s'envoie un petit whisky et il sort dans un taxi. En France jusqu'au taxi, il y a une rap.
On ne savait pas du tout qu'il y avait un mouvement, que derrière il y avait tout un style de vie qui était articulé autour de cette musique et qui était le hip-hop, ce qui est devenu le hip-hop. Et donc moi, jeune ado, je devais avoir peut-être 19 ans à l'époque. Je regarde ça et je suis fasciné notamment par les DJ qui manipulent des disques que je connais, mais qui les manipulent d'une manière que je n'imaginais pas, en me disant bah, ils arrivent à faire de la musique avec la musique. Donc c'était une étincelle monumentale parce que je n'imaginais pas qu'avec un disque, on pouvait faire plus que l'écouter. Donc en fait, moi qui étais qui avait peur d'apprendre un instrument de musique, je me suis dit bah finalement avec un disque et une platine que j'ai à la maison, je peux interagir plutôt que d'écouter passivement. Donc dès que je suis rentré chez moi, j'ai emprunté, confisqué, réquisitionné la platine de mes parents et j'ai essayé de reproduire ce que j'avais entendu dans ce fameux Paris City Rap. Alors je me suis rendu compte qu'il fallait une table de mixage, donc j'ai essayé de reverse engineer, comme on dit en anglais, d'essayer de comprendre comment ils étaient arrivés à faire ça, parce que moi je les voyais de loin, je voyais bien qu'il y avait deux platines, je voyais bien qu'ils répétaient des portions du disque, ils enchaînaient d'un disque à l'autre, mais je comprenais pas trop comment ils faisaient, quoi. Le premier disque où j'essayais de faire des passe-passe, c'était Good Times de Chic, qui était un grand classique du passe-passe des DJ du moment. Et c'est un peu à cette période où j'ai rencontré Dynasty dans un magasin de disques. Et Dynasty, qui était un excellent DJ, qui l'est toujours d'ailleurs. Et à l'époque, je le voyais s'entraîner des heures entières, tous les jours. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est un sport. C'est pas tellement jouer de la musique. Et autant je respecte totalement, mais je sais pas si j'ai envie d'entrer dans cette compétition de celui qui fait le passe-passe le plus précis et le plus rapide. Mais en tout cas, ça a donné naissance à cette envie d'interagir avec la musique qui, je pensais, m'était interdite parce que je suis pas musicien, je suis pas chanteur, donc la musique, finalement, je peux que l'écouter. Et là, je découvre que, ben non, on peut interagir avec, c'est-à-dire on peut faire de la musique quelque chose qui est personnel. Parce que la jouer, c'est un peu passif. La transmettre, c'est, on ne fait pas grand-chose, on passe ce qu'on a dans la main dans la main de quelqu'un d'autre. Mais là, on peut la transformer. Donc c'était l'idée de transformer la musique qui m'a vraiment interpellé.
Et c'était quoi vos premiers édits ?
Mes premiers édits, c'était des trucs du moment. Je me souviens qu'il y avait un édit de Axel Bauer, Cargo de nuit, qui était un truc assez dense. Il y avait de l'électro-funk américain, des choses comme D-Train. Il y avait, je me souviens que j'étais fan de Wham aussi, George Michael qui était très disco en fait à l'époque, donc il y avait des versions instrumentales avec des parties rythmiques qui me plaisaient beaucoup, et je me suis dit tiens, il y a un petit peu trop de voix, on va mettre un peu plus d'instru, etc. Et ce qui était assez rigolo, c'est que c'était un peu ce que tout le monde faisait, mais évidemment moi je savais pas ce que tout le monde faisait et tout le monde savait pas ce que les autres faisaient, et on a tous eu un peu le même parcours sans avoir été sans avoir su comment faire. C'est-à-dire que naturellement, on a tous fait un peu la même chose, et avec des petits détails techniques, mais on voulait tous arriver un peu à transformer la musique, en fait.
Nova. Dans les oreilles de...
Dimitri From Paris.
Son histoire, c'est aussi celle d'une génération, d'une communauté de DJ, de producteurs autodidactes, des collectionneurs qui, à un moment ou un autre, sont allés dans ce qui était dans les années 80 la Mecque musicale, Big Apple.
Un de mes tout premiers voyages à New York, que j'ai fait avec Dynasty, justement, on était les deux Français, allez, on se fait un truc de fou, on se paye un billet d'avion à New York et on va acheter des disques. Et non seulement on achetait des disques, mais en plus on frappait, on avait regardé dans le bottin les adresses des labels qu'on aimait bien, et on allait sonner à leur porte. Bonjour, on est français, vous n'avez pas des disques pour nous, on est DJ. Donc il y en avait qui nous jetaient et d'autres qui trouvaient ça assez rigolo. Ah tiens, il y a deux petits français là, ils viennent demander des disques, on n'a rien pour eux, tiens, file-leur ça. Donc on avait réussi à partir avec des disques gratuits, c'était incroyable pour nous. On nous donnait gratuitement des disques, c'était du jamais vu. En plus des disques qu'on appelait des disques import, qui coûtaient trois fois le prix du disque normal quand on était à Paris. Donc on était hystériques. Ça fait partie d'un de ces disques qu'on m'a donné. L'interprète s'appelle Carl Vinn. Et le morceau s'appelle « I was born this way ». Et j'adorais ce disque, et les paroles de ce disque, c'est « I'm carefree, I'm gay, I was born this way ». Déjà à l'époque, je me disais, dis donc, c'est culotté de chanter ça. Il y avait une espèce d'énergie dans ce disque, tant au niveau du vocal, que du contenu, que de la manière dont c'était chanté, que de la manière dont c'était remixé. Ça reste pour moi un des meilleurs disques de tous les temps, en termes de tout. Un disque que j'ai pu remixer, qu'on m'a proposé de remixer, mais que j'ai pas voulu toucher. Franchement, je crois qu'il y en a très 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 peu. Je me suis dit, non, ça je peux pas. C'est juste trop, trop sacré. Donc si on peut parler de fidélité, on peut parler de ça comme ça. I'm walking through life in nature's you
dans les oreilles. Dans les oreilles de...
Dimitri from Paris.
Carl Bean sur Radio Nova avec un extrait de son tube disco sorti en 1977, I Was Born This Way, morceau devenu un hymne LGBT, disque ramené de New York par notre invité ce matin, le DJ musicien Dimitri from Paris, et qui n'a jamais quitté son bac à disque. Dimitri qui revient dans quelques minutes sur ses années à la radio, qui nous parle de son premier disque et de ce qui l'a poussé vers la composition. Pour nous accueillir, eh bien, un autre morceau auquel elle reste très attachée, on le découvre dans un instant.
Pleasure when you treasure all that's new and true and gay. Easy living and we're giving what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in the glow of love. Smiling faces go. It's a wonder, it's so clear. By a fountain, climbing mountains as we hold each other near. Sipping wine, we try to find that special magic from above as we share our fair talking in the glow of love.
Nova, dans les oreilles de
Dimitri from Paris.
Une virée dans les oreilles de Dimitri from Paris, eh bien c'est l'assurance non seulement de prendre plaisir sur des énormes classiques comme ce morceau-là dont on entendait à l'instant un extrait de Glow of Love du groupe Change, mais c'est aussi l'assurance d'évoquer une histoire de la FM des années 80, car oui, l'auditeur Dimitri from Paris a très vite officié à la radio. On en parle juste après la présentation de ce disque qui lui aussi est resté dans son bac de DJ.
Vous avez une fidélité au disque, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des disques sur lesquels vous revenez tout le temps? Enfin, vous avez quelle relation à vos disques?
Il y a certainement des disques que j'aime plus que d'autres et dont je ne me lasse pas, mais il n'y a pas d'effort conscient de les mettre en avant au fil des années. Il y a des disques dont je ne me lasse pas qui datent d'il y a 30, 40 ans. Il y a un morceau qui s'appelle « The Glow of Love » du groupe Change, qui est une espèce de version faite par des Italiens, une tentative de refaire le son de Chic par des Italiens, mais finalement...
C'est le groupe italien ?
Ouais, enfin, ils sont italiens, mais pour la plupart des gens, ils sont américains. En fait, c'est une initiative italienne, mais avec des musiciens new-yorkais et un chanteur new-yorkais, qui est Luther Vandross, sur ce titre-là. Donc, ça n'a pas grand-chose d'italien, à part le producteur et arrangeur, mais ça donne un petit aspect... Encore une fois, de ce mélange où il y a des influences comme ça, européennes, traditionnelles, avec les influences afro-américaines, et qui est un peu une grande constante de ce que j'aime bien, en fait, parce qu'il y a la, il y a le meilleur des deux mondes pour moi. Collectionneur et auditeur passif, j'ai commencé donc à transformer la musique via des Megamix, des medley, des edits, etc. Et puis, j'ai essayé de trouver du boulot en tant que DJ. Et puis, en parallèle de ça, j'ai envoyé des pseudo-remix ou des edits à différentes radios, dont Radio 7. Radio 7 en a joué quelques-uns. Je me suis dit, avec ces edits que d'autres gens jouent, est-ce que je pourrais peut-être pas essayer d'avoir ma propre émission de radio ? Comme ça, je pourrais mettre ce que je veux. Et puis, peut-être, à terme... ce serait une carte de visite pour que je puisse un jour travailler en studio et plutôt que de faire des trucs sur cassette, faire des vrais remixes en studio comme font les gens que j'adore, dont j'achète les disques. Donc ça a été un peu cette démarche où j'ai voulu devenir remixeur. Et j'étais très fan, notamment de noms que je voyais sur les labels de disques que j'achetais. Il y avait une personne qui revenait souvent, c'était François Kevorkian. Et c'était un label new-yorkais qui s'appelait Prélude. Je me dis, ah, ce gars-là, il a l'air d'être français, il fait des super trucs. Quand je serai grand, j'ai envie d'être comme lui, quoi. Donc c'était vraiment, je me suis dit, voilà, ça c'est, j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire. J'avais aucune idée de comment, est-ce que c'était possible, etc. Mais bon, voilà, j'avais envie d'être mixeur. Et donc, je continuais à faire mes edits comme ça sur mes cassettes, les envoyer à des radios. Et puis, justement, il y a quelqu'un sur Radio 7 qui m'a dit, bah, écoute, si tu peux m'en faire un par semaine, moi je le diffuse, je te cite. Et ça m'a permis de me faire une petite notoriété. Oui, plus de 10 ans à la radio. En fait, j'ai commencé donc à Skyrock. Ça a été mon premier pas dans une radio qui avait quand même une audience. J'ai fait quelques essais dans des radios plus ou moins confidentielles. Mais Skyrock, il y avait une vraie audience. J'ai réussi à me faire un petit nom à Skyrock. D'une part, avec ces fameux edits qui étaient diffusés comme étant des remixes et qui étaient censés être une marque d'exclusivité de la radio. Je me suis retrouvé sur Energy et j'avais demandé à Energy, moi je veux bien venir travailler avec vous à condition que vous me laissez
avoir une émission
de radio où je fais ce que je veux. C'est-à-dire que je veux pas faire de la playlist que vous m'imposez, ça m'intéresse pas, mais je veux pouvoir être libre de diffuser la musique que j'aime bien. Ils ont accepté, ils m'ont mis le week-end et le week-end, il faut savoir que À l'époque, il n'y avait pas de sondage d'audience les week-ends. Donc les week-ends, c'était un peu le parent pauvre pour les directeurs d'antenne des grosses radios commerciales. Donc on pouvait faire ce qu'on voulait. Et donc j'avais une émission tous les samedis soirs de 2 heures qui s'appelait Energy Club, que j'ai faite sous différents noms pendant 12 années, en fait. Jusqu'à ce que les week-ends soient sondés et qu'ils ont décidé de virer tout ce qui dépassait de la playlist. Et du coup, cette émission a été complètement supprimée avec toutes les autres.
Plus salut de Zeki, c'est Dimitri, le roi de la bidouille, et c'est le Megamix. Pas de chansons d'une parade ce soir, mais plein de bonnes dance comme vous l'aimez, avec par exemple le nouveau Sissy Peniston, Frankie Knuckles pour changer un petit peu, Cookie Watkins à la protégée de Stix Silverley, une petite série garage avec The Tyrell Corporation, Extortion et Simon, Momon pour les intimes.
Nova. Dans les oreilles de
Dimitri from Paris.
Et quelle musique vous associez à vos débuts dans la composition? Par exemple, vos premiers disques en tant qu'artiste, ils arrivent après vos années radio.
Alors oui, mes premiers disques en tant qu'artiste, c'est assez particulier aussi, puisque pendant assez longtemps, je faisais des remixes. Au bout d'un moment, je me suis dit, et si moi je faisais de la musique, pourquoi pas? Il est arrivé qu'on m'a demandé de faire de l'illustration sonore pour des défilés de mode. Donc à l'époque, il y a un monsieur qui s'appelle Michel Gobert, que j'ai rencontré parce qu'il était le directeur artistique d'un magasin de musique qui s'appelait Chandisque. Les grands stylistes parisiens venaient acheter les disques chez lui, donc il connaissait notamment Karl Lagerfeld. Et un jour, Karl Lagerfeld lui a demandé de faire de l'illustration sonore pour un de ses défilés de mode. Et donc, Michel est venu me voir, il m'a fait une sélection de musique, une sélection de dialogues qu'il récupérait de cassettes vidéo, de films qu'il aimait bien. Il m'a dit, est-ce que tu peux me mélanger ça avec ça, ça avec ça? Et moi, j'étais complètement paniqué parce que ça ne se mélangeait pas du tout. Mais bon, je faisais ce que je pouvais du mieux possible. Et ça m'a un peu sorti du cadre de tout ce qui était dance. Et j'ai pris un peu goût à mélanger l'immélangeable, en fait. Et donc, on a travaillé avec Michel pendant assez longtemps, mais ça a beaucoup ouvert mon horizon musical.
Ça a amené quoi comme musique, par exemple?
Alors, il y avait tout. Le principe de la musique de mode, c'est qu'il faut toujours surprendre. Il faut, à l'époque, il y avait, ça se détachait un peu le son un peu lounge de ces albums de Easy Listening des années 60-70 qui étaient assez populaires aux États-Unis parce que c'était les débuts de la hi-fi. Il fallait proposer aux gens qui achetaient une chaîne hi-fi de la musique. Donc il y avait énormément comme ça de concepts d'albums sur les thèmes du voyage, sur des thèmes plus ou moins ésotériques ou les thèmes de l'espace. Il y avait tout et n'importe quoi. C'est effectivement tout et n'importe quoi. Et à l'intérieur, il y avait des très grands compositeurs qui se prêtaient au jeu. Et il y avait des choses très intéressantes. Il y avait des gens comme Les Baxter, comme un compositeur mexicain qui s'appelait Juan García Esquivel. C'était vraiment intéressant, tant musicalement qu'en termes de la manière d'approcher les choses. Il y avait des choses, c'était des relents de musique concrète dedans, mais un peu remaniés pour que ce soit accessible. Donc il y avait des choses assez intéressantes. Et j'ai commencé à chercher là-dedans. Et un jour, les gens qui s'occupaient de Chanel nous ont dit « C'est très bien la musique que vous passez pour le défilé, mais on a besoin de musique originale. Est-ce que vous pouvez en composer ? On a besoin de cette musique pour sonoriser les vidéos, pour illustrer les vidéos. » Alors Michel m'a dit, est-ce que tu te sens de composer des musiques originales? Ouais, peut-être en utilisant des samples de ce que tu m'as proposé déjà pour les musiques de défilé. Donc j'ai commencé à piocher, notamment dans les dialogues que Michel Gobert avait préalablement choisi. Et puis moi, de mon côté aussi, je m'étais fait une petite banque de spoken word, comme ça, de dialogues. C'était un truc que j'aimais beaucoup parce que c'était pas mal utilisé dans le hip-hop aussi.
Hello there, and welcome to the exciting world of hip. This is a new departure in language instruction.
for English-speaking people who want to talk to and be understood by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile delinquents, and the criminal fringe.
Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité.
Sit back, relax, and close your eyes.
Dans les oreilles, dans les oreilles.
Nova.
Dans les oreilles de
Dimitri from Paris.
Il y avait notamment un collectif qui s'appelait Double D and Steinsky qui mélangeait comme ça des breaks très connus du hip-hop avec des extraits de films. Donc moi, j'étais très versé dans ce... C'était très jingle. C'est ce que Nova fait aujourd'hui avec le top horaire ou les choses comme ça. C'est ce collectif américain avait commencé à faire ça à la fin des années 80.
We take you to the Hotel Martinet in Brooklyn where Bobby Millett and his orchestra are offering a program of dance music.
I'd like to know, are you really ready for some super dynamite soul? Introducing the world's greatest entertainer, Mr. Dynamite, the amazing Mr. Please Please himself, the hardest working man in show business. Ladies and gentlemen, the star of the show, James!
Brown, 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 brown.
Entre la culture, un peu... un peu fashion comme ça de Michel Gobert et moi ma culture un peu plus hip-hop, j'ai fait un peu le mélange des deux, j'ai mis un peu de musique exotica, j'ai mis un peu de lounge, j'ai mis quelques beats hip-hop, j'ai mis des samples de l'un et de l'autre et j'ai proposé ça à Michel pour proposer à Chanel et ils étaient tout à fait ravis et donc on a commencé à faire ces musiques originales pendant un certain temps et puis au bout de quelques années c'était des petites musiquettes de 2 minutes, je me suis retrouvé avec une vingaine de modules musicaux comme ça qui n'avaient servi qu'une fois et puis en les réécoutant je me suis dit qu'il y en avait quelques-uns qui étaient sympas et je les ai fait écouter à plusieurs personnes et notamment à ce garçon qui était devenu un de mes ingénieurs du son attitré pour les remix, c'était Philippe Zdar. Et Philippe Zdar faisait de la musique de son côté, plutôt techno, plutôt house, très underground. Et je sais qu'il trouvait que mes remix étaient un petit peu trop commercial pour lui, etc. Mais on était vraiment assez proches. Et puis, je savais qu'il n'avait pas sa langue dans sa poche. Donc, j'avais envie qu'il me donne son vrai ressenti. Et je lui ai fait écouter ça. Il me dit « Ah ouais, c'est rigolo, ça plaira bien aux filles ». Je ne sais pas si c'était sexiste ou pas ce commentaire, mais ça a été un peu une révélation parce que je me suis rendu compte qu'on était quand même dans un univers de mecs. Que les DJ c'était tous des mecs, que les producteurs de musique qu'on connaissait c'était tous des mecs, et que c'était un peu le concours de celui qui allait avoir la plus grosse, quoi, la plus grosse caisse, la plus grosse, le plus gros son. Enfin voilà, c'était voilà. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est un peu en circuit fermé finalement. Et moi, cette notion de vouloir faire des choses accessibles, et ce commentaire, ça plaira aux filles, ça veut dire que ça va sortir de ce groupe de gens. Du coup, ça m'a complètement libéré de me dire, ben voilà, finalement, quand je fais de la house, ça me plaît pas tant que ça. Ben là, je vais pas faire de house du tout, je vais prendre le contre-pied de ça, je vais faire un truc où je m'en fous que ça se danse ou que ça se danse pas, je vais laisser tomber tout le côté DJ et je vais faire un truc où je vais mélanger l'immélangeable comme j'ai appris aux côtés de Michel Gobert et donc j'ai utilisé quelques-uns de ces modules qui avaient été faits pour les vidéos et puis je les ai retravaillés parce que c'était trop court, c'était et puis ça a donné mon premier album en fait.
How do I look?
Very good.
How do I look? How do I look? How do I look?
Very good. I must say I'm amazed.
I have a pretty stylish girl. A pretty stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl.
How do I look?
pretty, stylish girl.
How do I look? How do I look? How do I look?
Very good. I must say I'm amazed.
I have a pretty, stylish girl. 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 I am a pretty, stylish girl.
How do I look? How do I look? How do I look?
Very good. I must say I'm amazed.
I have a pretty stylish girl. 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 I am a pretty stylish girl.
Dans les oreilles, dans les oreilles. Dans les oreilles de
Dimitri from Paris.
Dimitri from Paris, une very stylish fille, extrait de Sacre Bleu, premier disque de notre invité ce matin, un premier album signé chez Yellow Productions, label au sein duquel officiait à cette époque Chris de French Kiss, plus connu aujourd'hui sous le nom de Bob Sinclair. Qu'est-ce que vous aviez, Dimitri, dans les oreilles à ce moment-là, quand vous avez composé Sacre Bleu ?
Moi, mes oreilles, ça a toujours été la musique de danse. Toujours. Et l'idée de vouloir faire autre chose, comme j'y étais pas attaché, c'était beaucoup plus facile. C'est-à-dire que j'avais pas peur en disant « Ah ouais, mais là, je vais pas le faire assez bien que ce que j'aime. » Je connaissais pas du tout cet univers-là. Je me suis dit « Ça existe même pas. » Donc, peut-être l'inspiration, ça a été, j'ai envie de dire peut-être Delight, avec un producteur qui s'appelle Towate, producteur japonais, qui avait fait quelques trucs un peu dans ce sens-là. Après ce point de départ-là, c'était vraiment... ce que j'avais en tête, c'est... vas-y, on s'en fout, tu peux faire n'importe quoi. Parce que, comment dire, il n'y a pas quelque chose qui existe sur lequel on va pouvoir comparer. Donc l'idée, c'était plutôt que de faire la house et de trouver que c'est moins bien que mon producteur de house préféré du moment, ce qui était l'état d'esprit dans lequel j'étais, en disant « Ah, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien. » Là, il n'y avait pas de... Ou s'il y avait, je ne connaissais pas. Donc j'étais beaucoup plus détaché, beaucoup plus libre et finalement plus créatif parce que je ne me mettais pas de pression de quoi que ce soit. Je me dis « Tiens, ce sample, c'est rigolo. Ah bah tiens, je vais prendre un sample de musique de film pour mettre avec un truc de électro-rap. Et puis là, prendre une grande actrice. Tu sais quoi, on s'en fout. » C'était vraiment le « anything goes », quoi.
Et c'est pas du tout la même approche que lorsque vous réalisez des edits et des remixes, par exemple.
Non, c'est absolument pas la même manière de faire des remixes ou des edits parce que là, on mélange des choses, on prend de l'existant, on rajoute une création qui est personnelle par-dessus. Mais il n'y a pas de règles. Alors que si je fais un remix, pour moi, c'est important de respecter l'original, qu'on puisse retrouver un peu l'artiste. Que ce que je vais changer reste quand même cohérent par rapport à l'intention de son chant, etc. Donc il y a quand même des règles que peut-être je m'impose tout seul, mais en tout cas je me sentais pas aussi libre dans l'exercice du remix que dans l'exercice de composer un peu n'importe quoi. Il y a beaucoup de disques que j'ai joués, mais je pense que le remix que j'ai fait de Sister Sledge, Lost in Music, alors elles m'ont pas attendu pour que ce soit un tube, mais je pense que je l'ai repassé à une nouvelle génération parce que La nouvelle version que j'ai faite, ça m'a permis moi de la jouer, mais aussi à beaucoup de DJ de la jouer, et ça lui a vraiment donné une nouvelle vie. Et je suis plutôt fier de ça, parce que d'une part, j'aime beaucoup le résultat. Et c'est un disque que j'ai l'impression qu'on entendait moins avant qu'après la version que j'en ai faite. On peut dire que c'est un des disques auxquels j'ai contribué à donner une nouvelle jeunesse, effectivement.
Et comment vous aimez écouter la musique ?
Alors, c'est une grande question, comment j'aime écouter la musique. En fait, je ne l'écoute pas. C'est assez particulier, c'est que je suis incapable de ne pas être accaparé par la musique. Donc, si j'écoute la musique, je dois me poser comme quand on regarde un film. Et j'écoute la musique, posée, avec attention. Mais je ne peux pas écouter de la musique et faire autre chose. Je ne peux pas écouter de la musique et marcher presque. Je suis incapable d'écouter... quelque chose sans entendre le niveau de la réverb dans le mix ou le niveau de la caisse claire ou d'entendre que la guitare elle est à droite plutôt qu'à gauche. Enfin, c'est assez difficile de l'apprendre au premier degré pour moi. Il faut que je sois complètement bloqué. C'est-à-dire que si je suis en voiture en tant que passager, bah, je peux écouter de la musique. C'est un peu l'endroit le plus indiqué pour moi. Mais effectivement, si je peux faire autre chose et que j'ai la possibilité de faire autre chose, c'est assez difficile pour moi. J'ai la maladie du DJ, j'écoute 30 secondes, oui, non.
Et donc, par exemple, si je vous dis en ce moment, vous écoutez quoi ? Vous écoutez de la musique en ce moment ou pas ?
Ça fait 30 ans que je ne peux pas répondre à cette question, je n'écoute rien. Non, mais c'est vrai. Hein,
Enfin, si ce n'est des choses sur lesquelles vous travaillez.
Ah oui, j'écoute 40 trucs en même temps, mais vous dire ce que j'écoute en ce moment, bah, j'écoute mon remix que je suis en train de terminer.
Mais pour autant, vous vous interdisez pas quand même la musique chez vous ?
Ah non, je l'interdis pas du tout, mais je suis incapable de la choisir. Combien de fois, quand on est chez des amis, ah bah tiens, t'es DJ, tu vas nous choisir ce qu'on va écouter. Je dis, ah non, je suis ouais. Complètement paralysé.
Dans les oreilles. Nova. Dans les oreilles de
Dimitri from Paris.
Alors c'est difficile de choisir parmi tous ces enfants celui qu'on préfère, mais il y a un morceau que j'ai fait récemment où tout s'est plutôt bien déroulé et dont je suis particulièrement content. Un morceau qui est une composition originale d'une part, il n'y en a pas tant que ça finalement dans ma carrière des compositions originales, et puis un morceau avec un chanteur, il y en a encore moins. Et un morceau avec des vraies cordes, il n'y en a pas, ou il y en a très peu. Donc c'est un peu le premier morceau disco que j'ai fait de A à Z, où j'ai écrit la chanson, co-écrit avec le chanteur, qui l'a interprété, enregistré que des vrais musiciens, etc. Donc c'est un peu mon ultime tentative de construire aujourd'hui une musique qui n'existe plus depuis des années, qui est le disco. Et ça s'appelle Saved My Life. Et donc je suis l'artiste avec Furious, qui est le chanteur.
Et enfin, dernière question, c'est quoi la musique pour vous ? Qu'est-ce que ça représente ?
Qu'est-ce que la musique pour moi ? C'est une manière d'exister en ce qui me concerne. C'est-à-dire que, en tant que personne, si j'avais pas la musique, je saurais pas du tout comment me placer dans cet univers et dans cette société. Ça me permet de passer des choses aux gens et de leur transmettre du plaisir d'une certaine manière. Donc, si je peux, ça me permet de rendre d'autres personnes heureuses, et si je les rends heureuses, ça me rend heureux.
Merci.
Et j'espère que tout le monde est heureux à la fin de cette heure passée en compagnie du DJ, musicien et producteur Dimitri from Paris, que je remercie d'avoir partagé avec nous ses souvenirs de musique. Merci également à Mathieu Boudon qui a réalisé cette émission que vous pouvez d'ores et déjà écouter en podcast en version augmentée, donc avec plus d'histoires et plus de musique. Je laisse l'émission se terminer sur ces quelques notes et moi, eh bien, je vous retrouve côté Grand Mix.
Nova.
Dans les oreilles de...
En fait, la musique, elle est essentielle pour une chose, c'est mettre dans un état émotionnel.
Dans les oreilles.
La musique, c'est des sons organisés, c'est des respirations.
La musique, c'est le lien entre le matériel et l'immatériel.
Nova.
Retrouvez Dans les oreilles de et sa playlist sur nova.fr.